Donc, je vais aller sur ce thème de l'année, c'est soit bénédiction. Donc, j'ai intitulé comme ça, chaque jour donné. Comment être un canal de bénédiction, un transporteur du feu de l'évangile dans chaque jour que Dieu nous donne, dans chaque chose que nous faisons. Donc, je vais être assez focus, concentré sur un thème spécifique. Parce que c'est là où on dépense le plus de temps. Et c'est là aussi qu'on rencontre le plus de gens. Donc, où on a l'opportunité de partager la bonne nouvelle. Donc, des fois, pour raconter mon histoire un peu, comme j'aime bien le foot, j'aime bien faire l'analogie avec le fait qu'au foot, il y a ce qu'on appelle des footballeurs du dimanche. Donc les footballeurs du dimanche, eux, ce sont les gens qui jouent au foot tous les deux, trois fois par année. Et à côté, il y a des footballeurs qui sont pas du dimanche, mais qui jouent au moins tous les dimanches. Donc cette analogie-là, je le prends pour raconter mon histoire, parce que quand t'es chrétien, il existe aussi les chrétiens du dimanche. Donc les chrétiens du dimanche, c'est les chrétiens qui vont à l'église. Qu'on sait Pâques, qu'on sait Noël. Puis il y a aussi les chrétiens du dimanche. Ils sont chrétiens le dimanche. Et le lundi, ils sont plus chrétiens. Ils sont pas comme Djokovic, par exemple, qui lui dit, bon, je suis d'abord chrétien avant d'être athlète. Ils sont pas comme ces nombreux nos frères et sœurs chrétiens dans les pays persécutés qui sont d'abord chrétiens et tout le temps chrétiens. Donc il y a ces chrétiens du dimanche et puis il y a les chrétiens de tous les jours. Chrétien de tous les jours, ici, là, quand on se rassemble. Chrétien lundi, mardi, mercredi, jeudi. Dans le cadre du travail, dans le cadre des choses qu'on fait, où Dieu nous occupe quotidiennement, que ce soit une association, ou quand on est étudiant, quand on a des cours. Donc je vais le résumer par le thème du travail. Hein. C'est un mot plus simple, il fallait que je trouve un mot plus simple pour le dire. Chrétien, même quand on est retraité, quand on part en vacances, quand on rencontre des gens. Nous, on a des invités, mais hier, il y en a un qui m'a proposé, bon, on est en vacances, quand est-ce qu'on fait un moment d'évangélisation? J'étais là. J'ai adoré cette proposition. Donc oui, j'aime bien porter ce discours, parce que j'estime, je suis convaincu, et j'ai compris que Dieu nous a placés sur des endroits, à des étapes de notre vie, pour partager la bonne nouvelle, quoi qu'on fasse dans la vie, que l'on soit étudiant, ou que l'on travaille, ou que l'on soit retraité. Dieu nous missionne pour quelque chose de particulier. Quand je rencontre un ami, par exemple, qui recherche un travail, qui veut faire une reconversion, je dis, tiens, c'est une occasion, c'est une parfaite occasion pour demander à Dieu à quoi il t'appelle. Quand il a un problème avec son patron, etc., je dis, c'est une excellente occasion pour louer le Seigneur, entrer dans la prière et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu m'invites à faire sur cette situation? Et donc, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, il y a un intérêt particulier de la part de Dieu pour notre travail. Donc, je précise les choses qu'on fait au quotidien. Et donc, un jour, je disais à ma femme, oh là là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de travailler. Et elle m'a dit, tu n'as pas envie de louer le Seigneur? Et donc à partir de ce jour-là, je ne pouvais plus dire à ma femme et je me disais plus que j'ai la flemme de travailler, quoi. Parce que c'est un endroit où on adore le Seigneur. Donc vous l'aurez compris, on va parler spécifiquement du travail aujourd'hui. Donc Dieu s'intéresse à notre adoration quotidienne par le travail. Donc il y a trois points à l'intérieur que j'aimerais développer. Le premier point, c'est, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est écrit là. Donc le travail est un acte de louange qui a une portée éternelle. Donc on va regarder trois versets spécifiques qui développent ce point. Quand on va dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc quand on regarde bien, donc c'est vraiment intentionnel de la part de Dieu que de prendre l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille à la culture et à la garde de ce jardin-là. Donc Dieu voulait confier une responsabilité à l'homme dès le départ, pour qu'il s'occupe de ce jardin-là. Donc là, c'est du travail que Dieu voulait nous confier de manière intentionnelle dès le départ. Et le travail existait déjà, on peut le remarquer là, avant même qu'on l'on tombe dans le péché. Donc le travail est saint, mais bon, comme toute chose, ça peut être détourné. Et on a été détourné d'ailleurs. Et donc quand on va sur... ça c'est le début, vers le début de la Bible. Et quand on va vers la fin de la Bible, ensuite, dans Apocalypse, chapitre 22, on se rend compte que nous sommes appelés à le servir pour l'éternité, à travailler pour le Seigneur pour l'éternité. Donc il y a ce verset-là qu'on peut lire. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et là, regardez bien, il est dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc c'est quelque chose que l'on peut démarrer dès à présent. Dieu nous y invite à entretenir cette relation, en fait, par le travail, et qui a une portée éternelle. Je pense qu'on connaît tous ce commandement dans les 10 commandements, où Dieu nous dit, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Et maintenant, par rapport au deuxième point, on va voir un petit peu plus que Dieu s'intéresse à notre créativité et notre productivité au quotidien. Et Dieu cherche à être un partenaire avec nous. Je vais lire ce verset-là, où il est dit, donc l'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'être qui soit son vis-à-vis. Regardez bien. Donc l'Éternel Dieu qui avait façonné, lui qui a tout créé, les animaux, les champs, les oiseaux du ciel, tout, il les fit venir vers l'homme. Pourquoi ? Pour voir comment l'homme nommerait toutes ces créations de Dieu. Donc c'est vraiment une recherche. Dieu s'intéresse à notre créativité, à un partenariat. Il cherche à faire un partenariat avec nous. C'est comme si, je pense qu'on est nombreux à avoir des enfants ici, mais quand on voit un de nos enfants, commencer à avoir un petit peu plus de créativité, à faire quelque chose de beau, on est fiers. Donc imaginez à quel point Dieu s'intéresse à ce que nous, on ferait en termes créatifs au quotidien. Et donc l'objectif est clair, hein, il est écrit « Afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » Un impact majeur dans notre créativité, dans ce qu'on fait au quotidien. Je vais aller sur le verset suivant, qui parle un petit peu plus de productivité. Et donc c'est dans le parabole des talents. Hein. Il y a 3 personnes à qui il est confié des talents, différents talents. Donc il y en a 2, je la fais courte, hein, qui ont utilisé leurs talents. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce parabole ? Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Je pense que toutes les phrases de ce verset ont un sens majeur. Ça a beaucoup de sens. Mais je vais souligner simplement le fait que là, Jésus dit, très bien, tu es un bon serviteur. Donc Jésus ne dit pas « Très bien, tu es un bon pasteur » ou « Très bien, tu es un bon missionnaire » ou Jésus dit « Très bien, tu es un bon serviteur. » Donc un bon étudiant, un bon charpentier, un bon gérant d'association, un bon serviteur. Et la deuxième chose que je voulais souligner dans ce verset, c'est quand Dieu dit « Viens partager la joie de ton maître. » C'est-à-dire que Dieu est très enthousiaste quand il nous voit être productif. Ça l'enthousiasme énormément. Et donc au-delà de ces aspects productivité, créativité, Dieu nous encourage à avoir un impact sur notre prochain en termes relationnels, en tant que celle de la terre et lumière du monde. J'aime bien ce verset dans Proverbe 3, versets 3 à 4, où il est dit « Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. » Donc que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut, qu'on les garde dans notre cœur. Mais quand on s'arrête, il dit « Tu obtiendras ainsi la faveur de Dieu et des hommes. » Ça ne s'est pas arrêté à la faveur de Dieu uniquement, et des hommes. Donc en tant que sel de la terre et lumière du monde, Dieu s'intéresse à notre impact par rapport à notre prochain, dans notre cadre du travail, ce qu'on fait au quotidien. Qu'on a un collègue qui nous énerve ou tel client qui est un peu difficile. Dieu s'intéresse à notre impact vis-à-vis des hommes. Et d'ailleurs, c'est un exemple très intentionnel de la part de Jésus, où dans Luc 2, 52, il est dit « Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Donc Jésus, quand il a grandi, il s'est rendu beaucoup plus agréable à Dieu et aux hommes. Et il était d'ailleurs charpentier avant de commencer à faire son ministère. Là aussi, c'était pour nous montrer quelque chose. Il aurait pu directement commencer à faire son ministère, mais non, il a d'abord commencé à être un charpentier. Et j'adore cette histoire de Daniel. Je pense que vous avez tous en tête l'histoire de Daniel quand il a été piégé pour être jeté dans la fosse aux lions. Mais quand on regarde son talent professionnel, en termes de productivité, de créativité, il a été promu jusqu'à un point où, disons, bon, il allait devenir être le premier ministre, que ça a créé des jalousies. Ça a créé des jalousies et c'est pour ça qu'il a été piégé. Mais non seulement il était productif, il avait du talent, mais aussi il avait cet aspect relationnel. Donc le roi, il y avait beaucoup d'affect par rapport à Daniel. Quand il a dû le condamner, il ne pouvait pas dormir. La première chose qu'il a fait le matin quand il s'est réveillé, c'est de voir si Dieu avait sauvé Daniel. Et donc ce roi-là, disons-le, dans notre jargon d'aujourd'hui, disons qu'il était athée ou qu'il avait d'autres croyances au moins. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est des exemples qu'on peut retrouver dans la Bible pour voir comment Dieu s'intéresse à nous, à ce qu'on fait au quotidien. Il est vraiment très intéressé par ce qu'on fait. Donc je vais passer par la deuxième partie de ce message où j'ai identifié 5 actions qui révèlent la présence de Dieu dans notre adoration quotidienne par le travail. Il y en a d'autres, évidemment, donc c'est un sujet vaste qu'on peut vraiment, vraiment développer quand on s'y intéresse. Le premier point que j'aimerais vous partager, c'est de tout faire avec le Saint-Esprit. Tout d'abord, il y a ce verset dans Ézéchiel que j'adore, quand Dieu nous dit « Ma demeure est avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est une véritable déclaration d'amour, c'est-à-dire Dieu veut être avec nous au quotidien et il est avec nous au quotidien. Quand on regarde des histoires dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelle que ce soit Moïse ou Josué ou Gédéon pour une mission, pour faire un travail spécifique, Dieu dit tout le temps « Je serai avec toi, je serai avec toi ». C'est une précision importante qu'il nous donne. Il nous dit « Je serai avec toi ». C'est vrai que j'avais noté ce verset dans Josué où il est dit « Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Dans notre travail, dans les choses qu'on fait au quotidien. Et Jésus confirme la présence de Dieu avec nous aujourd'hui en nous précisant qu'il nous enverrait le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous aujourd'hui. Donc c'est tout aussi valable aujourd'hui. Il précise, il demeure avec vous et il sera en vous. D'où l'importance de la prière avant de démarrer quoi que ce soit dans ce qu'on fait, un sujet spécifique, un dossier spécifique. Ce n'est pas quelque chose en vain, parce que Dieu nous précise, il est avec vous, il est avec nous. Alors, on gagne à le parler directement. Il y a quelques semaines, je voyais un ami qui travaillait. Il s'est mis en télétravail chez nous parce qu'il s'est enfui par rapport au JO. Il faisait des prises de notes pendant son travail. Je lis, mais ce sont des prises de notes, ça, pendant le travail? On dit oui. Et vous savez qu'est-ce que c'était les prises de notes qu'il avait pendant le travail? C'était des versets. Donc il avait des versets dans le cœur qu'il écrivait. Alors qu'il avait des réunions, il était en col, et il faisait des prises de notes pour se rendre compte de la présence de Dieu. J'ai aussi en tête l'exemple d'une réunion qui était très 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 compliquée avec l'équipe, les managers et tout ça. Et donc, tout le monde était en colère pendant cette réunion-là. Et j'avais la grâce et la bénédiction d'avoir une sœur en Christ dans l'équipe où je travaillais. Et donc à la sortie de cette réunion-là, cette sœur me dit « Ah, Michael, mais comment t'as fait? Qu'est-ce que tu faisais pendant la réunion ?» Je lui dis bon, « Je priais. Je priais pour que le Saint-Esprit prenne la place et que la réaction et les choses que je fais puissent révéler le Seigneur. » Et donc, que faire justement en cas de conflit? Parce que ça va nous arriver, ça nous arrive. Il y a un verset qui nous dit très bien ce qui est à faire, c'est se remettre à sa paix surnaturelle, à sa paix divine. Donc, lisons bien ce qui est écrit, c'est « Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. » Ça commence bien. Il n'y a pas de querelle. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les emmènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. La toute première phrase, je m'arrête déjà et dis, pas de conflit. Je fais, waouh, c'est difficile ça, Seigneur. Et qu'ils se montrent au contraire aimables envers tout le monde. Donc que l'on essaie de s'appliquer à être aimable envers tout le monde, même envers ce collègue qui est très difficile, ce sujet qui nous énerve, que l'on soit capable d'enseigner, c'est aussi un commandement, waouh. Surtout quand on a très peu de patience, on en dit, ah, répète les choses 3 fois au moins, t'as compris, et on se voit que la personne n'a pas compris. Et de supporter les difficultés, les oppositions, quand on est dans un débat, et le Seigneur nous dit, pas de querelle. Et regardez bien, il doit instruire avec douceur les contradicteurs, cette douceur-là que le Saint-Esprit peut nous donner par le fruit de son esprit. Et la dernière phrase est très importante, puisque dit c'est Dieu qui va les amener à changer d'attitude, si c'est sa volonté, pour connaître la vérité. Je vais aller sur le point suivant, où il est dit, si rien ne marche, Dieu est toujours au contrôle. Par exemple, l'histoire de Moïse, qui s'est carrément enfui dans le désert déjà, qui pensait que voilà, c'était fini pour lui, pour la louange du Seigneur. Et pourtant, Dieu l'a ramené et il s'est servi de lui pour délivrer tout le peuple d'Israël. L'histoire de Joseph, qui était dans une situation très difficile parce qu'il a été envoyé, il a été rendu esclave en Égypte. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui aussi pour sauver tout le peuple. Et bien d'autres encore, y compris des histoires dans notre vie quotidienne, où je pense qu'on a tous connu des situations où on pensait que c'était foutu, que c'était fini pour nous. Mais Dieu a renversé la situation. Donc c'est valable aussi dans ce qu'on fait au quotidien, dans notre travail, dans notre mission, qu'on peut être des missionnaires quotidiens. Et j'adore cette histoire des amis de Daniel, donc de Shadrach, Meshach et Abednego, où dans cette histoire, il était dit, enfin, il y avait un roi qui avait érigé un statue en or et tout le monde devait se prosterner devant cette statue en or. Eux, ils ne voulaient pas. Lui, il dit, si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains au roi qu'il nous délivre. Donc là, il précise bien que Dieu est capable de le faire. Mais cet acte d'adoration qui vient à la suite, c'est impressionnant. Ils disent, mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. si quelqu'un au travail essaie de nous pousser à renoncer à nos valeurs, là, c'est un exemple d'adoration. Si, malgré toutes les choses qu'on a fait, rien ne marche, on peut continuer à adorer Dieu et ne pas aller chercher à adorer d'autres dieux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite quand on réussit? La gloire revient à Dieu, toute la gloire lui revient. Et sans doute l'histoire de Jéricho, la victoire à Jéricho en tête. Je pense que c'était très intentionnel, fait exprès de la part de Dieu, quand il a fait tomber les remparts de l'ennemi par des sons de trompette. Par des sons de trompette, même pas par des forces humaines. C'est bien pour montrer que toute la gloire, tous nos bons résultats viennent de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, il nous dit « Prends donc garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. » Et Jésus le précise encore. Quand il était venu, il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est bien Jésus qui nous donne tous nos bons résultats. Et d'ailleurs, il y a un exemple d'un ami qui m'a parlé il y a quelque temps, qui me dit à chaque fin de journée, il fait la liste, sa liste de gratitude. Et donc, au fait, c'est pourquoi pas ne pas faire ça, ne pas lister où est-ce que Dieu est intervenu dans notre travail au quotidien, quand la journée se finit, et bien terminer par une journée de prière avant de fermer le cahier ou l'ordinateur. Seigneur, je t'ai tout donné. Montre-moi où est-ce que tu es intervenu aujourd'hui, parce qu'il intervient. C'est le dernier point, qui est très important, qui me fait penser à l'île d'Oléron. Se reposer, c'est glorifier le Seigneur. Donc j'ai repris ce commandement dans les 10 commandements. Il dit, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Donc c'est par rapport au sabbat, où l'objectif, c'est, pour moi en tout cas, le premier point, l'objectif premier, c'est de montrer notre confiance à Dieu. Qu'il œuvre même quand on se repose, et de l'écouter, se ressourcer, pour qu'il nous donne les prochaines indications, des guidances. Chez les Anglais, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des workaholics, c'est un peu comme alcoolique, mais workaholique. C'est travaiolique, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'empêcher de travailler tout le temps, ils ont toujours quelque chose en tête, ils ne veulent pas se détendre. Ça arrive à plein de gens aujourd'hui. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, que ce soit à la maison ou que ce soit par rapport au travail, il faut que je fasse ça. Et pourtant, Dieu nous invite aussi à ce repos-là, pour être encore plus connectés avec lui. Et donc, je vais vous laisser avec une série de questions, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, où on peut se poser par rapport à ce fait que Dieu s'intéresse énormément à ce à toutes les choses qu'on fait au quotidien, en termes de créativité, de productivité, de relation avec les gens. Donc si là où Jésus te place, Jésus te disait, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes, un peu comme Pierre. Jésus te disait, suis-moi, suis mes indications, suis-moi, pense à moi, avant d'envoyer ton mail, d'appuyer sur envoyer pour dire, ah t'es nul, pourquoi t'envoyer ce mail-là? Suis-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça m'est arrivé plein de fois que moi je voulais faire des mails incendiaires, mais j'ai prié et Dieu m'a dit supprime. Je l'ai laissé m'aider à écrire et c'était différent le résultat après. Donc ces questions-là, si Dieu te fait cet appel-là, cet appel à être créatif, productif, au sens de partage de la bonne nouvelle, en parole et en acte, dans ce qu'on fait. Comment vas-tu considérer ton prochain dossier ou ton prochain cours Il y a peut-être un dossier que tu n'avais pas envie de traiter, un sujet où tu as un peu la flemme. Et pourtant, Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et là, comme c'est bientôt la rentrée, comment vas-tu considérer, approcher cette rentrée scolaire qui arrive? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il attend de nous, le fait qu'on fasse de bonnes choses. Comment salueras-tu ton collègue et les gens que tu rencontres? Avec un sourire qui vient du Saint-Esprit, avec une attention spéciale. Y compris ben, celui qui t'énerve. Et la dernière question, c'est comment te reposeras-tu? Qui est une partie très importante aussi de notre adoration quotidienne. Saint-Esprit de Dieu, merci d'avoir été avec nous pendant ce temps de partage. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as permis de comprendre que tu es avec nous au quotidien, que tu t'intéresses à tout ce que l'on fait. De la même manière où quand on lit ta parole, Seigneur, tu es là avec nous, et bien tu t'intéresses aussi à ce qu'on fait comme art, comme créativité, comme discussion avec les gens où tu nous missionnes au quotidien. Que tu nous amènes à être une bénédiction, Seigneur, par les choses que l'on fait et par ce que l'on dit, par notre caractère. Merci Père éternel, parce que tu nous invites à démarrer cette relation avec toi dès aujourd'hui, cette relation que tu veux pour l'éternité. Quand on sera avec toi de l'autre côté, tu veux qu'on le démarre dès aujourd'hui, Seigneur. Merci pour toutes ces révélations. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour cette année qui commence, Seigneur, que ta parole se déverse au quotidien, que ton amour se déverse au quotidien, dans ce à quoi tu nous missionnes aujourd'hui et tous les jours à venir. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.